et de faciliter mon enquête, qui commencera par la cathédrale elle-même. J'entends bien découvrir ce qui est arrivé à ce mystérieux bedeau, sur le compte duquel couraient déjà de nombreux soupçons d'hérésie jusqu'en Avignon. Je veux savoir comment il est possible qu'ait été confiée une charge aussi importante à un homme dont on murmure qu'il n'était pas seulement fou, mais probablement alchimiste et kabbaliste. Disciple d'Abraham Ben Shmuel Aboulafia et de Moshe Ben Shemtov, s'acoquinant autant avec les Sarrasins qu'avec les Juifs. Avec de tels égarements, comment s'assurer que la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle n'est pas devenue un repère pour les sectes arianistes, manichéennes ou homéennes, ou pis encore, une tanière à mahométistes, en ce pays où l'on sait combien certains anciens chrétiens se sont empressés d'embrasser le mysticisme blasphématoire des Maures et des Sarrasins, venus pourtant les auxir. Mais n'avez-vous pas entendu mon ordre ? S'emporta Andreas en feignant la colère. Taisez-vous ! Il fallut quelque effort à notre apothicaire pour ne pas rire à haute voix en ce savoureux moment. D'une seule traite, il avait cité, et de mémoire, toutes les hérésies dont il savait qu'elles avaient quelque rapport proche ou lointain avec la péninsule ibérique. Et il lui sembla qu'ainsi, il faisait un excellent inquisiteur. À considérer bien sûr que la mauvaise foi, le jeu des amalgames ineptes et l'imbécilité fussent des critères d'excellence pour quiconque entendait assumer cette charge. Bien, ne voulant pas déranger les dévots pèlerins, braves hommes et femmes qui viennent ici en pénitence se recueillir et vénérer les reliques de notre glorieux Saint-Jacques, ignorant sans doute les horreurs dont ce saint lieu fut hier le théâtre. J'attendrai ce soir que vous ayez fermé la cathédrale, et alors vous m'en confierez toutes les clés, et me laisserez mener mon enquête. » Le père abbé acquiesça, mais on voyait qu'intérieurement il fulminait, se croyant victime de l'arrogance d'Avignon, quand il était en réalité celle de la malice d'Andreas. « En attendant, dites-moi où sont conservées les archives épiscopales. » « Elles sont au scriptorium, frère inquisiteur. »« Très bien, vous m'y conduirez, le fermerez à tout visiteur, et l'on ne m'y dérangera sous aucun prétexte, afin que je puisse étudier les archives en attendant le soir. » Le chanoine s'exécuta, et Andreas passa le reste de la journée enfermé dans le scriptorium, où il s'abandonna volontiers à moult lectures, lesquelles ne lui apportèrent aucune information essentielle à son investigation, mais lui confirmèrent au moins une chose. La dépouille qui était dans le tombeau n'était probablement pas celle de l'apôtre Jacques. D'abord, toutes les chartes relatant les origines de la chambre funéraire et la découverte des reliques étaient apocryphes et peu dignes de foi. Elles se plagiaient tant les unes les autres qu'elles paraissaient inspirées d'un même mensonge initial. Ensuite, les récits de la découverte du sépulcre ne se manifestaient que 2 siècles et demi après les faits, et n'étaient guère rassurants quant à leur exactitude. En outre, nulle part il n'était fait mention de la façon dont on s'était assuré que le corps trouvé dans le sarcophage fût bien celui de l'apôtre Jacques. En réalité, l'architecture de la dite chambre funéraire semblait tardive et correspondait plus aisément au siècle du fameux gnostique priscillien qu'à celui de Jésus et ses apôtres. D'autres documents plus troublants encore infirmait même la possibilité que Saint-Jacques se fût trouvé là. Tel un courrier signé de la main du pape Innocent et daté de l'année 416, qui contestait non seulement la constitution d'Église par quelque apôtre sur la péninsule ibérique, mais aussi son évangélisation, et affirmait que Jacques ne pouvait s'y être trouvé. Selon lui, et selon l'Église en ce temps, le corps de Jacques se trouvait en Marmarique. L'apothicaire trouva en revanche plusieurs faux grossiers, visant à confirmer que le corps de Jacques eût bien été transporté en Galice après sa mort. Mais ils étaient emplis d'anachronismes, écrits dans un mauvais latin, qui trahissait leur facture tardive. Pis encore, des chartes qui étaient antérieures d'un siècle à la découverte du tombeau revendiquaient déjà la révélation du corps de Saint Jacques en Galice, non pas à Compostelle mais dans le territoire d'Amaea, lequel était à plusieurs lieues de là. En somme, on eût trouvé le corps avant le tombeau. Cette dernière trouvaille cocasse poussa Andreas à penser que l'on avait d'abord découvert le corps de Jacques, puis, un siècle plus tard, que l'on avait trouvé un tombeau un peu plus loin et que l'on jugea fort commode d'assembler les deux afin de transformer ce tombeau en un lieu de culte chrétien. Ceci allait dans le sens des affirmations que Maître Diaz lui avait faites la veille. Enfin,